Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons de l'avenir judiciaire d'Omar El-Béchir depuis sa destitution et son arrestation en avril dernier. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, demandent que l'ex-président soudanais soit livré à la Cour pénale internationale. Cela fait tout de même 10 ans qu'Omar El-Béchir est poursuivi par la CPI pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité au Darfour, où la répression, je vous le rappelle, a fait 300 000 morts selon les Nations Unies. En tout cas, pour les nouvelles autorités militaires, il n'est pas question d'extrader l'ex-président. Omar El-Béchir doit-il échapper à la justice internationale? On en parle, vos réactions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Et comme à chaque fois que nous parlons de la Cour pénale internationale, vous êtes très nombreux à souhaiter prendre la parole, donc continuez à nous contacter. Vous nous envoyez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission ou sur le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité. Je lirai évidemment quelques réactions comme tous les matins pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Ajako Armand nous a appelé de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire évidemment. Bonjour Ajako Armand.
Bonjour Juan.
Merci de nous avoir contactés. Vous avez des questions sur les propos de l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier sur les étrangers.
Exactement, Ron.
On vous écoute. Hein.
Ron, je voulais profiter, puisque c'est la première fois que je participe à l'émission, bien bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Très bien, ben on vous salue et soyez le bienvenu. Tout arrive.
D'accord.
On vous écoute.
Le concept d'ivoirité bat son plein dans ce jour en Côte d'Ivoire, Ron. Et l'ancien président Henri Conan Bédier a déclaré qu'on fait en sorte que l'ivoirien soit étranger chez lui. Pourtant, dans les années 2000, cette même question avait suscité beaucoup de crises. Comment se fait que le concept ivoiritaire revient sur le devant de la scène aujourd'hui?
Alors, on va revenir évidemment sur ces propos qui font polémique et qui ont enflammé ces derniers jours le débat politique en Côte d'Ivoire. Bonjour Pierre Pinto.
Bonjour.
Correspondant permanent de RFI à Abidjan, comment expliquer que l'ivoirité revienne sur le devant de la scène?
En réalité, ce n'est pas le concept d'ivoirité proprement dit qui revient sur le devant de la scène, mais un certain nombre de questions identitaires qui rappellent notamment le débat sur l'ivoirité des années 90-2000. Et comme la polémique émane d'Henri Conan Bédier, qui est à l'origine du concept d'ivoirité, eh bien on fait le raccourci. En fait, tout a commencé début juin par un entretien entre Bédier et des représentants de son parti, le PDCI. La scène est filmée, l'ancien chef de l'État indique que prochainement il parlera de certains problèmes comme les conflits intercommunautaires et, je cite, de ce que recouvre le phénomène de leur passé. Puisque, dit-il, on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés dans beaucoup de villages. Le moment venu, nous agirons pour empêcher le hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de l'orpaillage, a ajouté Henri Conan Bédier. Il dénonce aussi une fraude organisée à l'identité ivoirienne, pointant en particulier la commune d'Abobo, à Abidjan. Si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir, s'interroge encore le patron du PDCI, qui ajoute, il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne se sentent pas étrangers chez eux. Fin de citation.
Alors, ce qu'il faut dire, Pierre Pinto, c'est que la polémique a mis du temps à sortir.
Oui, en fait, ces propos d'Henri Conan Bédier seraient probablement passés inaperçus si le gouvernement, quelques jours plus tard, n'avait pas réagi officiellement, dénonçant, je cite, des propos d'une extrême gravité. L'instrumentalisation de la haine de l'étranger par le président Bédier et les dérives qui en ont résulté ont été à la base des différentes crises que notre pays a connues depuis la mort du président Houphouët-Boigny, dit le communiqué du gouvernement. Donc l'allusion est claire là à l'ivoirité inventée par Bédier, qui a d'abord, rappelons-le, revêtu une acception culturelle avant de dériver vers une classification des vrais ou des faux ivoiriens provoquant les conflits que l'on sait. Loin d'éteindre l'incendie, Jean-Louis Billon, en charge de la communication au PDCI, a quelques jours plus tard justifié les propos d'Henri Conan Bédier, expliquant que l'ancien président voulait simplement mettre la lumière sur des problèmes. Et le lendemain, c'est le parti au pouvoir, le RHDP, qui a à son tour réagi et condamné les propos de Bédier et la défense de Jean-Louis Billon.
En tout cas, cas, tout cela démontre bien que la campagne électorale en vue de la présidentielle de l'année prochaine est entrée dans une nouvelle phase.
Oui, dans un pays où le vote est généralement communautaire, le PDCI joue avec des sentiments dangereux qui se basent sur des frustrations, sur le fait que la réconciliation n'ait pas réellement été menée après la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est un moyen pour le PDCI de rappeler au pouvoir son poids communautaire et électoral. Et du côté du RHDP, dont l'électorat serait majoritairement composé de gens du Nord comme les Dioula ou de populations issues de l'immigration régionale, eh bien on surfe sur cette vague politique. Le parti au pouvoir peut se poser légitimement en garant ou protecteur de l'unité ivoirienne face à des propos dangereux tenus par ses adversaires politiques. Ces électeurs qui peuvent se sentir désignés par un discours qu'ils ont d'ailleurs déjà entendu vont se tourner vers ce parti pour se protéger, c'est en tout cas le pari qui est fait, tout comme espère-t-on au RHDP ceux qui veulent à tout prix veulent éviter à tout prix de revivre les événements de 2002-2011.
Oui, les conflits effectivement de 2002-2011. Ajakou Armand, vous avez une dernière petite question?
Oui, Ron.
Allez-y.
Doit-on craindre la recrudescence des affrontements intercommunautaires?
Ah, faut-il s'attendre à une résurgence des affrontements, Pierre Pinto? Vous parliez des événements de 2002-2011.
Oui, en fait, les tensions intercommunautaires n'ont jamais réellement disparu depuis 2011. En tout cas, ces dernières années, elles sont épisodiques, elles reviennent régulièrement, même si il est assez rare qu'elles atteignent des bilans humains aussi importants que ceux qu'on a vus à Béoumi, à la mi-mai, où 14 personnes ont péri dans des affrontements entre Baoulé et Dioula. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de polémique n'est pas fait pour apaiser les tensions. Donc même si au niveau local, on assiste souvent à des initiatives pour faire baisser ces tensions ou pour rapprocher les communautés entre elles après des événements tragiques comme ceux de Béoumi, les sentiments de défiance sont bien là et il faut espérer que les discours tenus haut et fort au micro ou face aux caméras à Abidjan n'aient pas pour effet d'attiser les braises localement.
Et on aura l'occasion d'en reparler vendredi dans la Libre Antenne puisque plusieurs auditeurs de Côte d'Ivoire souhaitent s'exprimer sur ces propos de l'ancien président Henri Colombédier. Merci beaucoup Pierre Pinto, bonne journée à Abidjan. Ajakou Armand, merci de nous écouter à Yamoussoukro. Il est 8h18. On repasse très vite au standard avec Romaric. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Lomé, au Togo. Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Oui. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a donné un avis favorable sur l'étiquetage des produits originaires des colonies israéliennes. Des territoires occupés.
Oui.
Je voulais savoir sur quelle base juridique s'est fondée la Cour de justice de l'Union européenne pour donner cet avis.
Alors, les produits issus d'une colonie israélienne, notamment les produits agricoles, doivent être étiquetés comme tels. Voilà ce qu'a dit il y a quelques jours l'avocat général de la Cour de l'Union européenne. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. Sur quelle base juridique s'est appuyé l'avocat général de la Cour?
Eh bien, il se base sur un règlement européen qui date de 2011. Ce règlement concerne l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires et le texte dit « La provenance d'un produit doit être indiqué de manière obligatoire si le consommateur peut être induit en erreur, et c'est bien le cas puisqu'il n'y a pas de différenciation entre un produit fabriqué en Israël et un produit fabriqué dans les territoires occupés par Israël, plus spécifiquement dans les colonies. Et ça pose un problème éthique parce que vous savez que l'occupation des territoires et la colonisation sont illégales au regard du droit international. Donc les consommateurs ont le droit de choisir ce qu'ils achètent en toute connaissance de cause. Alors ce texte européen, il a été appuyé par un texte un peu plus détaillé en 2015. Donc la législation existe, mais en fait si l'avocat général de la Cour se prononce, c'est qu'il a été saisi par la France. Il y a eu une grosse polémique en France en 2016 lorsque le gouvernement a demandé à ce que l'étiquetage se fasse pour être en application du droit européen et il s'est heurté à une levée de boucliers. Des organisations juives ont crié à la discrimination. On saisit le Conseil d'État français qui du coup a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. On a l'avis de l'avocat général qui en général est suivi à 90% par la Cour. Notons que cet avis, bien, il est très clair. Hein. Il faut un étiquetage et il va même assez loin puisqu'il dit que c'est une question d'éthique. Il compare la situation à l'apartheid en Afrique du Sud et il dit que eh bien, la colonisation c'est un peu pareil et que les consommateurs ont droit de choisir ce qu'ils achètent.
Ouais, les consommateurs d'aujourd'hui peuvent, pour des motifs similaires, s'opposer à l'achat de produits en provenance d'un pays donné. C'est ce que disait jeudi dernier l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez une dernière question, Romaric?
Oui, Juan. Quel pourrait être l'impact sur les ventes?
Alors, est-ce qu'on a une idée de l'impact économique de cet étiquetage?
Alors, il faudrait qu'il y ait lieu, en fait. Donc déjà, on pense que ce serait assez faible, hein, puisque dans un rapport du Sénat français qui date de 2016, avant la polémique, cette question de la traçabilité du produit a été évoquée. Et le Sénat français disait que les Israéliens, en fait, pouvaient contourner cet étiquetage, par exemple en indiquant que le produit a été fabriqué avec l'adresse du siège social en Israël et pas du lieu de production dans les colonies, qui pouvait passer par un pays tiers, etc. Donc la traçabilité est assez difficile. Donc finalement, sur les ventes, ça aurait assez peu d'impact. En revanche, en termes d'image, c'est vrai qu'on reparle toujours de l'occupation, de la colonisation qui sont illégales. Et en termes d'image, eh ben, c'est pas très bon pour Israël.
Voilà Romaric, pour les explications, l'analyse de Muriel Paradon. Merci à tous les deux. Bonne journée. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Bonjour Ibrahim.
De la RFI.
Bonjour, vous êtes à Bamako, au Mali, nous vous écoutons.
L'OMS vient de déclarer que l'épidémie Ebola en RDC ne représentait pas une urgence mondiale. Quels sont les critères à remplir pour que l'urgence mondiale soit décrétée? Comment les pays voisins de la RDC accueillent-ils cette déclaration de l'OMS?
Oui, c'est vrai que le comité d'urgence de l'OMS a estimé vendredi dernier que l'épidémie actuelle d'Ebola ne constituait pas une urgence de santé publique de portée internationale. Tariq Yazarevitch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'OMS. Il a fallu de longs débats vendredi dernier pour que l'OMS considère que les critères pour déclarer une urgence de santé publique de portée internationale n'étaient pas remplis. La question de notre auditeur est pertinente. De quels critères s'agit-il ?
Oui, donc effectivement, c'était la troisième réunion de comité d'urgence au sujet de l'épidémie d'Ebola RDC. Et pour la troisième fois, la recommandation de comité d'urgence à notre directeur général était que cette épidémie à l'heure actuelle ne constitue pas une urgence globale de portée internationale. Voilà ce que les comités, les membres du comité ont entendu. Ils ont entendu des analyses provenant de l'OMS, des ministères de santé, d'autres acteurs sur le terrain, tels que la mission de maintien de la paix MONUSCO, tels que l'Organisation internationale d'immigration qui travaille sur la surveillance dans les points de frontières.
Oui.
Ils ont regardé est-ce que le risque de la transmission internationale a augmenté depuis la dernière réunion, et est-ce que la capacité de réponse fonctionne, est-ce que la réponse porte ses fruits, est-ce qu'il faut faire appel à plus de coordination internationale. Donc il faut juste dire que c'est pas noir et blanc, même si le comité d'urgence a estimé que tous les critères ne sont pas remplis. Il a toutefois appelé à ce que il y a une mobilisation internationale pour fournir des fonds nécessaires non seulement à l'OMS mais aussi aux pays voisins, aussi bien
que la RDC. Parce qu'on voit bien justement que les pays voisins de la RDC sont inquiets. On peut comprendre que l'état d'épidémie portée internationale ne soit pas déclaré lorsque l'épidémie demeure cantonné à un seul pays. Mais là, on a bien vu en Ouganda la semaine dernière, la maladie a fait tout de même 2 morts. La Tanzanie, qui partage une longue frontière avec l'Ouganda, a lancé dimanche dernier une alerte. Donc il y a quand même des inquiétudes dans les pays limitrophes.
Oui, effectivement. Dès le début de cette épidémie, on a dit qu'il y a un risque de transmission au niveau régional. Et c'est effectivement ce qui est arrivé la semaine dernière avec le cas qui sont arrivés sur le sol d'Ouganda. Mais bon, voilà, le travail de préparation qui a été fait dans tous les pays limitrophes a porté ses fruits et on espère que, voilà, cette incursion de virus était temporaire. Pour le moment, il n'y a aucun cas positif en Ouganda. Il y a une 90 personnes qui sont suivies. Il faut aussi vraiment dire que l'OMS travaille avec les pays voisins pour les aider à mettre en place tout le système et toutes les capacités pour pouvoir vite détecter et répondre si un cas est exactement ce qui s'est passé en Ouganda.
Effectivement. Et puis je rappelle qu'en RDC, l'épidémie a fait, depuis le mois d'août dernier, depuis quasiment un an, 1427 morts sur un total de 2134 cas répertoriés. Merci beaucoup, Tariq Yazarevitch, porte-parole de l'OMS, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir surtout répondu à Ibrahim qui nous appelait de Bamako. Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Spécialiste du golf, directeur de recherche au CNRS, nous vous avons contacté ce matin car nous avons des questions sur les tensions dans le détroit d'Ormuz et c'est Yabao en Côte d'Ivoire qui a des questions à vous poser. Bonjour Yabao.
Oui, bonjour Juan, bonjour à toutes les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons avec Marc Lavergne.
Précédemment, deux navires pétroliers ont été attaqués en mer d'Oman. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite accusent l'Iran en s'appuyant sur une vidéo. Quel sera l'intérêt de l'Iran à attaquer les pétroliers dans ce contexte tendu?
Alors, Marc Lavergne, bonne question effectivement. On rappelle que jeudi dernier, deux pétroliers norvégiens et japonais ont été la cible d'une attaque en mer d'Oman. Les États-Unis accusent l'Iran, tout comme le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite. Pour accuser l'Iran, les États-Unis s'appuient sur une vidéo. Les États-Unis qui ont d'ailleurs publié hier une dizaine de photos pour tenter de convaincre la communauté internationale que l'Iran est bien derrière ces attaques. D'abord, avez-vous été convaincu, vous, par les images diffusées par les États-Unis?
Pas vraiment. Je trouve que les tenants et aboutissants de cette affaire restent assez complexes. Il ne faut pas oublier qu'il y a la cinquième flotte des États-Unis qui est basée à Bahreïn et qui contrôle en permanence le détroit, donc est censée anticiper ce genre d'attentat ou au moins apporter d'autres éléments de preuve qu'une petite vidéo et quelques photos.
Oui.
Je crois que le dossier est beaucoup plus complexe que ça et que jusqu'à présent, on ne voit pas très bien ni comment ça s'est fait, ni pour quelles raisons.
Des vidéos en noir et blanc, des images de mauvaise qualité. Quel serait l'intérêt de l'Iran d'attaquer des pétroliers?
Alors quand on parle de l'Iran, il faut savoir, parce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, ça a été rappelé que c'était durant la visite du Premier ministre japonais. Alors je pense que l'Iran n'a pas intérêt en tant que nation à faire ce genre d'opération, alors qu'il y a quelqu'un qui est un client important, qui est aussi un médiateur potentiel entre les États-Unis et l'Iran pour saboter cette visite. Alors je crois qu'il y a deux cercles de pouvoir à Téhéran, il faut le rappeler. Il y a d'un côté les gardiens de la Révolution, et puis tous ceux qui sont dans la ligne de l'imam Ali Khamenei, et puis il y a le gouvernement. Et le gouvernement est beaucoup plus modéré, si on veut, que les tenants de la ligne de l'imam qui, sont plutôt va-t-en-guerre et sont plutôt une affirmation du caractère islamique de la République d'Iran. Alors, ça peut être aussi un jeu pour saboter effectivement la visite du Premier ministre japonais de la part des gardiens de la Révolution, hein, qui ne sont pas pour une sorte de médiation vis-à-vis des États-Unis.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, le fait de s'attaquer à des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, de vouloir perturber le marché mondial du brut, et donc d'avoir d'une certaine façon un moyen de pression sur les États-Unis, sur l'Arabie Saoudite, sur l'ensemble de la communauté internationale qui ne soutient pas Téhéran?
Mais on peut voir les choses aussi dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que Donald Trump a intérêt à ce que le cours du brut monte, puisque les États-Unis sont exportateurs de pétrole, ils ne sont donc pas visés par cet accident, et d'un autre côté, ça peut être aussi une pression sur les alliés, c'est-à-dire sur les Européens, en forçant le camp occidental à se réunifier, et d'un autre côté, ça peut être aussi quelque chose qui fait du mal à la Chine, parce que la Chine, comme le Japon d'ailleurs, ont besoin du pétrole iranien, et faire monter le cours du brut jusqu'à un certain point, c'est un bénéfice pour les États-Unis, et c'est aussi très embarrassant pour les pays qui dépendent du pétrole pour leur énergie. Il ne faut jamais oublier le contexte de la lutte entre la Chine et les États-Unis à l'échelle mondiale.
Merci Marc Lavergne de cette expertise. Bonne journée à vous, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du golf. Yamao, bonne journée. Abouaké, restez avec nous. Tout de suite le journal et on revient dans 10 minutes. On débattra ensemble de l'avenir judiciaire d'Omar El-Béchir.